Radio 90.3 FM in Montreal.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Je crois que tu nous as préparé une chronique en plus.
Oui, exact. La bande dessinée, disons que j'en mange de ces temps-ci.
Génial.
Puis c'est ça, il y a des méchants bons albums, mais bien des choses intéressantes. Cette fois-ci, ce matin, je vous suggère aux auditeurs du lendemain de la veille, le sujet de la justice. Voir peut-être des fois de l'injustice qui va avant, même qui la précède souvent. Alors, le premier album est vraiment un album étonnant. Ça s'appelle Dragman, D-R-A-G-M-A-N. C'est publié chez De Noël Graphique par un Britannique qui a fait un coming out, un monsieur qui s'habille depuis plus d'une dizaine d'années en dame. Il a jeté tous ses habits masculins. Alors voilà, de là aussi le titre de l'album, Dragman, comme un peu emprunté à Drag Queen. Sauf que là, on est avec un dragman, avec un non-drag, quoi. Alors, il y a une Britannique qui est bien connue, Posy Simons, une BDiste, qui dit ceci. Il n'y a pas de super-héros plus super que Dragman, le héros travesti de Stephen Appleby. Tiens. C'est une méchante belle introduction. Parce que super-héros, oui et non. Super-héros, on pense à un monsieur, August Crimp, qui est Dragman. August Crimp, c'est son nom, alors qu'enfant, il adore porter des vêtements de femme. Quand sa mère quitte la maison, la première chose qu'il fait, il fouille pour ramasser une paire de bonnes nylons et se travestir, et c'est pour lui quelque chose de très signifiant, de quelque chose de très important. Et plus que ça, il s'aperçoit même qu'il peut l'éviter. Il peut lever dans les airs et même voler lorsqu'il est habillé en femme. En fait, c'est ce qu'il pense. Par la suite, il va s'apercevoir qu'il peut voler autrement. En tout cas, le livre Dragman a une double portée. En fait, c'est un livre d'autobiographie, d'une certaine façon, mais ça appartient à un courant qu'on peut nommer en bande dessinée autofiction. C'est-à-dire que l'auteur ou l'autrice pose, en fait, dévie à l'occasion, prend certaines libertés par rapport à son propre parcours, l'enrichit ou le stupéfie avec des éléments autres ou des éléments qui vont appuyer certains éléments en termes de signification. Alors voilà, cette histoire-là est assez fantaisiste parce qu'il y a un élément de mensonge à travers ça. Parce que notre fameux Dragman a défroqué, si on peut dire d'une certaine façon, il a quitté cette idée donc de super-héroïne travestie pour devenir papa, avoir un enfant et se marier avec une femme. Sauf que, à un moment donné, il y a une jeune voisine qui va aller le voir et qui va lui dire « Écoute, mes parents ont vendu leur âme et il faut à tout prix la récupérer. On a besoin de dragman. » Alors voilà, c'est un peu le tableau de cet album-là qui fait, bon sang, 300 quelques pages, dont un petit texte à la fin de l'auteur Stephen Appleby qui parle justement de son parcours. Et son parcours tout de même semble avoir été assez évident, assez simple, pas trop compromettant. En fait, sauf que, il n'empêche pas que l'histoire de Dragman, c'est une histoire de combat entre des super-héros et il y a aussi les super-héros ne veulent pas d'un super-héros travesti. Pour eux, c'est comme si ça se crachait dans la soupe et que ça confondait finalement l'aspect viril du super-héros. Donc, cet aspect-là est extrêmement important et transcendant par rapport à la question identitaire, par rapport à la validité de choix, finalement, qu'une personne pourrait faire. Dragman, un livre étonnant, un livre dessiné à l'arraché, quasiment en crayonné, avec des couleurs à l'aquarelle. Très, très, très beau livre, avec un humour un peu pince sans rire ou un humour retard qui est typiquement britannique. Dragman, publié chez De Noël Graphique par l'auteur Stephen Appleby. Alors, voilà notre premier livre sur la justice et sur le combat identitaire. Un deuxième livre, celui-ci est documentaire. Ça s'intitule « La balance, le glaive et les fourmis ». C'est publié chez Futuropolis par un tandem d'auteurs qui est Jean-Luc Loyer au dessin et Xavier Bétaucourt au scénario. En fait, ce livre-là se passe dans un haut lieu de la bande dessinée, dans la ville d'Angoulême, qui donne son nom au fameux, au célébrissime festival d'Angoulême. Mais là, attention, on va plutôt aller dans un palais de justice, celui d'Angoulême, toujours, donc la même ville où il y a le festival. Et la question, donc, est de suivre 23 magistrats, 48 greffiers, nous dit-on, bien qu'on souhaite que ce soit plutôt des greffières, et trois directrices de greffe, et pas moins de 35 682 dossiers en attente. Alors voilà, à travers des faits divers, ou en tout cas le train-train du quotidien, des jugements, on apprend d'une part le vocabulaire de la justice. On est en France, bien entendu, mais la plupart des situations ou des causes évoquent, donnent des échos aussi à ce qu'on connaît ici au Canada, au Québec. C'est un livre, donc, qui a un aspect un peu humoristique, mais aussi qui démontre fort bien à quel point la justice est essoufflée. À force de vouloir créer un monde judiciarisé, de réglementer, de légiférer à tout craint, bien sûr, il y a un embourbement certain du système. En plus, le système sous-financé donne des résultats assez catastrophiques. Merci. Alors voilà, il est question de ça, d'un constat qui est propre à notre époque par rapport à la justice. Je répète le titre, la balance, le glaive et les fourmis étant bien sûr celles et ceux qui font fonctionner tant bien que mal le système judiciaire. Ce livre-là est publié chez Futuropolis par Jean-Luc Loyer au dessin. Très beau dessin, un dessin à nul autre pareil, un dessin très personnel et scénarisé réalisé par Xavier Bétaucourt. Ensemble, ils ont donc fait reportage à Angoulême pendant des mois et des mois pour accoucher de ce livre-là qui me semble vachement complet et en plus auquel on a ajouté une dizaine de photographies en noir et blanc d'un ami photographe. Très belle photographie qui complète très bien l'album. Un dernier album de bande dessinée pour ce matin, Carmela Crime, tout avec des K. Carmela et Crime, K-R-I-M-M. C'est publié chez Le Lombard dans une collection que j'aime bien, une collection souvent humoristique qui s'appelle Troisième Vague. Ici, c'est pas un album humoristique. Ça s'appelle, comme premier tome, Ramdam Blues, en faisant allusion au Ramadan. Les auteurs sont Frank Piancarelli au dessin et au scénario, on retrouve Lewis Trondheim. Lewis Trondheim, qu'on connaît bien pour Lapino, qu'on connaît bien pour l'éditeur alternatif qui a révolutionné la bande dessinée moderne, c'est-à-dire l'association. Mais Lewis Trondheim a une passion, entre autres, pour le polar. On lui doit notamment une série que j'aime beaucoup, qui est Maggie Garrison, qui est publiée chez Dupuis et dans laquelle il y a trois tomes. Maggie Garrison est une Britannique et Trondheim avait travaillé à ce moment-là avec le dessinateur Wary. Cette fois-ci, Lewis Trondheim travaille avec Piancarelli, mais encore, la constante, c'est que c'est un polar, c'est du policier, détective privé, puisque Carmela Crime a perdu son emploi de flic à cause qu'elle a tenté de couvrir une collègue. Alors voilà, elle se retrouve, ça se passe à Marseille, et c'est dans les milieux de la pègre. Alors voilà, c'est un livre très alertant dans lequel, pour cette première enquête, une femme très riche dans le milieu de la pègre va décider de faire affaire à elle pour l'innocenter du meurtre de son mari. Alors voilà, c'est une histoire déjà qui apparaît comme rocambolesque. Ici, le garde du corps de cette grande dame de la mafia qui va servir d'aide à Carmela Crime et lui se trouve en plein Ramadan tandis qu'il va l'aider à faire cette enquête qui a plusieurs rebondissements. Donc, c'est un très bon livre policier. On s'aperçoit que Lewis Trondheim est un bonhomme qui, outre son dessin, qui a fait sa marque de commerce, on peut dire aussi que ses scénarios particulièrement policiers, particulièrement de détectives au féminin policier, sont définitivement intéressants et méritent un sacré coup d'œil. Carmela Crime, le tome 1, Ramdam Blues, publié chez Le Lombard. Pour s'achever, je vous propose un album que j'ai ici entre les mains en vinyle. C'est un groupe qui renouvelle le gros rock québécois. Oui, oui, oui. Ça s'appelle Gros Soleil comme groupe. L'album, ce premier album, s'intitule Pop Culture Populaire et c'est sur étiquette Indica. C'est encore tout récent et la pièce que je vous propose pour faire allusion à la bande dessinée s'intitule Dans une fusée. Alors voilà, d'ailleurs on voit la fusée de Tintin sur la page couverture de cette œuvre très pop art. Saint-Denis, toujours le 90.3 FM. Merci Tamara. Bonne journée à vous tous et toutes.
Merci à toi et à la semaine prochaine.
All night long, piled high and love. So he lost his way down by the tracks. All gone out. All gone out. Not coming back. She laughed a lot. And he found out. His arms too long. And his head too small. Crawl the way she made him feel. The sound is given up. I looked around and the place was empty. That girl was funny that way.
Aujourd'hui, on parle des troubles anxieux. Bienvenue à Pré-pharmacien, un balado de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour à tous. Et non, vous n'avez pas la berlue, c'est Benoît Lemire qui est au microphone pour l'animation de ce balado, en remplacement de Nathalie Marceau, qui prend un répit bien mérité. Pour cet épisode, on reçoit Violaine Masson, pharmacienne au CIUS de l'Est de Montréal, notamment à l'Institut de santé mentale, communément appelé Louis-Hippolyte Lafontaine, et aussi à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle est aussi chargée d'enseignement à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour Violaine.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de te parler aujourd'hui. Tu consacres ta pratique aux soins des maladies psychiatriques. C'est pas un épisode sur la COVID, mais je peux pas m'empêcher de te demander comment ça se passe sur tes différentes unités depuis le début de la pandémie.
Ben merci Benoît, la question. C'est quand même difficile pour les patients parce que c'est comme un double confinement. Déjà, être hospitalisé en psychiatrie, c'est pas agréable. Puis tous nos patients passent par des unités tièdes pendant 14 jours avant d'aller dans des unités froides. Donc, ils sont confinés à leur chambre. Ils ont vraiment très, très peu d'occasion d'en sortir. Donc, c'est sûr que si on est hospitalisé pour une dépression, ça fait comme partie du traitement de sociabiliser, de voir des gens, de sortir. Alors que là, le confinement impose aux patients d'être encore moins sociable. Par contre, il y a quelques points positifs. Il y a beaucoup moins de drogue qui circule sur les unités parce que les patients ont moins de sorties, puis ils ont moins l'occasion d'être à moins de 2 mètres d'un autre patient puis d'échanger. Fait que ça, c'est peut-être le seul point positif, mais la consommation des patients en dehors de l'hôpital là, a augmenté. Là. Je peux pas dire que ça a diminué.
Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Avant d'être un trouble, l'anxiété, c'est aussi un symptôme. On remarque souvent que l'anxiété accompagne une autre maladie psychiatrique. Quand est-ce qu'on détermine que l'anxiété, c'est vraiment une pathologie en soi plutôt qu'un symptôme d'une autre maladie?
En fait, le stress aigu, c'est vital. C'est même normal. C'est une réaction qui sert à quelque chose. C'est un peu pour ça aussi que dans l'évolution, il y a encore des anxieux. Il y a autant de gens qui ont de l'anxiété. Pourquoi les anxieux, pourquoi si c'est maladaptif, ça a perduré? C'est que l'anxieux dans l'homme des cavernes disait on ne devrait pas sortir, il y a peut-être des lions qui vont nous manger. C'est quand même utile l'anxiété. Quand c'est un stress chronique, c'est maladaptif. Puis la définition de tous les troubles anxieux comprend un point qui dit que ça cause une souffrance ou un dysfonctionnement majeur dans la vie du patient. Ça fait que le patient n'est plus capable de vaquer à sa vie et de vaquer à ses occupations normalement. Donc, il y a des anxieux qui fonctionnent, qui sont compensés, mais c'est quand c'est un problème dans la vie de tous les jours que ça devient une pathologie.
Il y a plusieurs déclinaisons des troubles anxieux. Est-ce que tu peux me parler de ces déclinaisons-là?
Dans le DSM-4, on les appelait tous troubles anxieux, puis dans le DSM-5, il y en a quelques-uns qui sont dans les chapitres séparés, mais pour les besoins de la présentation aujourd'hui, on va tous les appeler troubles anxieux. Il y a le trouble anxieux généralisé, donc la personne qui a des inquiétudes excessives pour toutes sortes de domaines. Il y a le trouble panique, donc les gens qui ont des attaques de panique, plus qu'une attaque de panique, et aussi qui ont très peur de faire d'autres attaques de panique. Donc, ils vont éviter de se mettre dans des situations pour avoir des attaques de panique, qui vont éviter de sortir de chez eux, par exemple. On peut avoir aussi une phobie spécifique ou une phobie sociale. Donc, les phobies spécifiques, je pense qu'il y a plein de gens ici qui n'aiment pas nécessairement l'avion ou qui n'aiment pas nécessairement les araignées, mais ça ne va pas vous causer de l'évitement. Vous allez quand même être capable de vous asseoir dans l'herbe, dans un parc, parce que vous n'aurez pas nécessairement si peur que ça d'une araignée. Il y a les troubles reliés au trauma, donc le stress post-traumatique qui est, d'une certaine façon, la réexpérience du trauma de façon physique, de l'hypervigilance. Essentiellement, c'est ça. Là. Donc, il faut être exposé à un trauma et comme revivre de façon constante le trauma, comme si on le ressentait encore. Puis les troubles obsessifs compulsifs, là, où le classique, là, on pense à la personne qui va se laver les mains 15 fois de suite, qui a une obsession, dans le fond, de la propreté ou une obsession de ne pas attraper de germes et qui va avoir des compulsions, donc différents rituels ou différentes répétitions de mouvements ou de choses pour diminuer d'une certaine façon son anxiété.
Toutes ces maladies-là, ça se prévient?
C'est sûr que est-ce que ça se prévient? Si on était capable de demander une nouvelle paire de chromosomes ou des gènes différents, on pourrait peut-être prévenir, là. Donc, il y a une partie qui est génétique sur laquelle on a peu de pouvoir. Il y a une partie qui est développée par l'environnement. Donc, c'est sûr que ça va un peu ensemble. Hein. Souvent, si on a des parents très anxieux qui vont nous élever d'une certaine façon, en étant très anxieux, en ayant très peur qu'il nous arrive quelque chose comme enfant, ça va tendance à nous faire devenir plus anxieux. Il y a certains troubles là, comme le stress post-traumatique où on a fait différentes études pour essayer de prévenir ça si on est exposé à un trauma. Donc, il y a des choses qui aident pas. Par exemple, de faire un débriefing après un gros événement traumatisant puis de s'asseoir tout le monde ensemble puis d'en parler, ça n'aide pas, puis même ça peut nuire. Puis il y a certaines études là où on a donné, par exemple, du propranolol à des soldats avant d'aller au front pour essayer de diminuer le stress post-traumatique. Puis ça marche jusqu'à un certain point, là, mais c'est pas déployé à grande échelle. Fait que ça peut se prévenir d'une certaine façon par une éducation puis des mesures cognitivo-comportementales, mais c'est sûr qu'il y a une partie génétique sur laquelle on a peu de pouvoir.
Puis est-ce que c'est toujours une sentence à vie?
Bien, c'est sûr que ça, c'est considéré comme des maladies chroniques. Donc, ça prend généralement un traitement pour en venir à bout. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un trouble anxieux qui va diminuer l'intensité pour devenir à la limite d'être cliniquement significatif ou qui vont être capables de compenser puis d'avoir leur stress à un niveau acceptable ou avec des thérapies cognitivo-comportementales et tout ça. Ou bon, c'est les médicaments, mais c'est sûr que les médicaments, quand on les arrête, ben l'anxiété peut revenir, là. Puis... je dirais que, dans le voie avec la pandémie, il y a plein de gens qui, je pense, étaient comme compensés, là. Tu sais, avaient un certain contrôle sur leur vie. Les risques de leur vie étaient, d'une certaine façon, à un niveau acceptable pour eux. Puis là, la pandémie, puis tous les changements, toutes ces choses-là sont difficiles pour ces gens-là. Encore plus que, ben, le sont pour tout le monde, je pense, là, mais le sont de façon supplémentaire pour les anxieux parce qu'on a, tu sais, zéro contrôle, puis on sait pas quand est-ce que ça va finir, on ne sait pas. Ben là, c'est sûr qu'on a les vaccins, tout ça qui s'en viennent, là, mais on ne sait pas exactement ce que ça va faire, si on va l'attraper, si notre famille va l'attraper, qu'est-ce qu'on va développer comme symptômes. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'il y a plein d'anxieux qui, je pense, allaient bien avant et là, vont peut-être moins bien.
Oui, mais tu as parlé des facteurs génétiques, entre autres. Est-ce que il y a des caractéristiques particulières qui prédisposent. Là, on a souvent en tête les femmes âgées qui prennent des anxiolytiques de façon chronique. Est-ce que c'est un stéréotype ou il y a vraiment des particularités là, qui permettent de prédire en quelque sorte?
Ben, c'est pas la pathologie mentale la plus génétique dans le sens que les études de jumeaux ne démontrent pas 100% de concordance et tout. Là. Mais oui, c'est à peu près deux fois plus les femmes que les hommes. C'est pas un seul gène qui entre en ligne de compte. Donc oui, il y a plusieurs neurotransmetteurs qui sont associés à ça, mais comme il n'y a pas un seul gène, puis que c'est multifactoriel, puis aussi la composante épigénétique qui s'ajoute à ça, c'est dur de faire un portrait type qui représente tout le monde. Fait que oui, il y a plus de femmes, puis oui, les femmes âgées, ben je pense que c'est aussi une question d'habitude de prescription. Je pense que il y a 30-40 ans, c'était acceptable de prescrire des benzodiazépines avec des renouvellements à vie, puis ces personnes-là qui sont habituées à ça veulent pas qu'on les enlève, là. T'sais, ils peuvent vieillir avec ça, puis on se retrouve avec une prescription inappropriée qui... Si on était en 2020, on partirait pas ça à cette classe de patientes-là.
Bon, ouais. Bien, parlons donc des mesures non pharmacologiques. C'est quoi le rôle de ces mesures-là dans le soin des troubles anxieux? Est-ce que le pharmacien peut en faire ou si ça prend un psychologue, par exemple?
Bien, c'est sûr que si on veut une psychothérapie qui va traiter, guérir ou contrôler suffisamment un trouble anxieux, ça prend quelqu'un de formé pour ça. À moins d'avoir fait une formation supplémentaire comme pharmacien, c'est pas suffisant. Mais c'est sûr que je pense que la façon d'expliquer le médicament, de rassurer le patient, de lui expliquer à quel moment ça va fonctionner, de rassurer sur les effets secondaires, lesquels sont permanents, temporaires, lesquels s'estompent facilement avec certaines mesures. Je pense que ça aide beaucoup les gens qui ont un trouble anxieux à passer à travers les premières semaines de leur traitement avant que ça fasse effet. Mais pour les mesures non pharmacologiques, la plupart, c'est de la psychothérapie. Différents types de psychothérapie selon le trouble, mais la cognitivo-comportementale est quand même utile pour l'extrême majorité des troubles. Mais ça, oui, ça prend un psychologue, ça prend un bon lien, puis ça prend plusieurs séances là, pour avoir des effets. Puis ça se compare aux médicaments en termes d'efficacité. Par contre, ben, les médicaments, ça va faire effet le temps qu'on va les prendre. Puis si on fait pas de psychothérapie, il y a des grosses chances que le trouble revienne à l'arrêt du médicament.
Mais est-ce que je te comprends bien si je dis qu'il faudrait toujours utiliser la psychothérapie puis la pharmacothérapie en même temps?
Bien, pas nécessairement. Il y a des patients qui sont pas prêts à faire de la psychothérapie. Il faut quand même travailler. Puis la psychothérapie, des fois, la pharmacothérapie, on la fait au début pour comme atténuer une partie des symptômes. Par exemple, il y a des psychothérapies pour le tas de stress post-traumatique où c'est essentiellement de s'exposer à des choses qui font repenser au trauma. par exemple, tu es un vétéran, tu as un stress post-traumatique par rapport à des choses que tu as vues à la guerre, puis ton exposition, ça va être de voir des films de guerre sans arrêt ou de faire des choses qui vont te remettre dans le trauma. Fait que c'est quand même assez souffrant. Faut le faire de façon encadrée avec un psychologue. Faut vouloir aller mieux. Faut aller assez mal pour vouloir aller mieux, là, d'une certaine façon. Je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui est prêt au jour 1 à faire ce qu'il faut de psychothérapie pour en voir les résultats. Fait que la pharmacothérapie peut aider beaucoup. Puis il y a des gens qui vont préférer juste l'une ou l'autre ou qui vont pas répondre à certaines options. Puis c'est très correct aussi, là. Mais okay. Oui, la combinaison, c'est quand même dans un monde idéal. Juste la psychothérapie, si on a le temps, là, si on est assez patient, puis on n'a pas trop de dysfonctionnement, puis on a envie d'essayer ça plutôt qu'un médicament. Là.
Bon, ben, tu parles de médicaments, là, on va aborder le sujet. Ouais. Peut-être qu'on peut y aller par sous-type de trouble anxieux, si tu veux. On pourrait parler de l'anxiété généralisée pour commencer. Je pense que c'est le trouble le plus prévalent.
C'est le trouble le plus prévalent. Puis c'est celui aussi qui a le plus d'options si on veut. Là. Bien, c'est sûr que dans le stress post-traumatique, il y a certaines options particulières, mais essentiellement dans le trouble anxieux généralisé, il y a des antidépresseurs, les ISRS, les IRSN, donc les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou de la sérotonine norépinéphrine. Il y a certains autres antidépresseurs. Puis, il y a aussi d'autres molécules comme la prégabaline. Il y a aussi la quétiapine, puis il y a la buspirone. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses, puis des classes différentes. Je dirais que c'est peut-être le trouble anxieux où il y a le plus de choix de molécules.
Oui, tu m'as pas parlé encore de benzodiazépines. Ouais. Moi, j'ai appris dans mes cours au siècle précédent là, qu'il fallait utiliser les benzodiazépines avec parcimonie à cause du risque de tolérance. Puis d'habitude, pourtant, tu sais, on voit beaucoup de ces patients-là qui prennent des benzodiazépines. Puis honnêtement, ils ont l'air d'aimer ça. Est-ce que c'est toujours une mauvaise pratique?
Bien, tu sais, ça fait effet rapidement, contrairement aux autres molécules. Ça fait effet, tu sais, dès la première dose. Puis, ça dépend du trouble anxieux. Fait que pour le trouble panique, d'avoir toujours une benzodiazépine au besoin, si jamais il y a une attaque de panique, ça peut être correct, là. Sauf que la plupart des patients, leur trouble panique va culminer en quelques minutes, puis même le temps que la benzodiazépine fasse effet, qui est prise, c'est au besoin, ça fait pas effet si vite que ça. Mais je pense qu'il y a une partie d'effet placebo, il y a une partie d'effet de soulagement par après, là. Puis dans le trouble anxieux généralisé, il y a quand même des données avec les benzos. L'effet anxieux est un peu moins estompé à long terme là, par rapport aux effets sédatifs puis aux autres effets des benzodiazépines. Fait que ça peut être un choix. Par contre, dans le stress post-traumatique ou dans le TOC, c'est vraiment moins un bon choix, les benzos. Un, ça aide pas, puis deux, ça crée de la dépendance quasiment tout le temps. T'sais, ça aide partiellement les quelques minutes et tout ça, là, mais ça n'aide vraiment pas le stress post-traumatique. Puis même chose pour le TOC. Fait que, t'sais, en 2020, ça devrait être des molécules réservées pour le début de traitement, là, avant que l'autre pharmacothérapie fasse effet. Puis vraiment, un PRN très avec parcimonie, puis t'sais, vraiment le moins possible. Dans le stress post-traumatique, c'est quasiment tout le temps nuisible, là, fait que ça devrait quasiment jamais être prescrit. Là. Surtout que ça aide pas l'architecture de sommeil, puis dans le stress post-traumatique, l'extrême majorité des gens ont des cauchemars, puis ont des problèmes de sommeil. Là.
OK, bien écoute, tu me parles de stress post-traumatique. Peut-être qu'on peut approfondir cette question-là. On imagine bien ce que c'est que d'avoir vécu un traumatisme. Peux-tu nous dire quand est-ce qu'on appelle ça un syndrome, une maladie?
C'est sûr que tous les troubles anxieux ont une question de temps. Donc, il faut que ça fasse un certain temps que les symptômes qui restent. Dans le stress post-traumatique, il faut que ça dure, je pense, c'est plus qu'un mois. Puis, il faut avoir les symptômes d'hypervigilance. Ben, il faut être exposé à un trauma ou le voir. Là, si c'est pas nous-mêmes qui avons vécu le trauma, il faut voir où il y a certaines exceptions, comme par exemple des coronaires ou des policiers qui voient sans arrêt des scènes violentes. Il faut faire un évitement des stimuli associés et avoir des distorsions cognitives. Il faut que ça dure depuis plus qu'un mois. Fait que c'est normal si vous vivez un événement traumatisant et stressant, que dans le premier mois, vous ayez des moments où ça va pas bien. Mais tu sais, si c'est vraiment, ça vous cause un dysfonctionnement, que vous êtes plus capable de sortir de chez vous, que vous avez envie de frapper dans le mur à chaque fois que, je sais pas, moi, vous entendez un bruit qui vous fait penser à ce trauma-là, bien là, c'est problématique. Là, c'est la différence entre un stress post-traumatique puis quelqu'un qui vit un trauma, qui n'a peut-être pas envie d'en parler pendant 2 heures tous les soirs, mais qui est capable de continuer de vivre.
Tout à l'heure, tu m'as parlé pour le stress post-traumatique de propranolol. J'ai entendu parler du prazosin aussi pour soigner ça. C'est un peu bizarre. C'est pas des médicaments qu'on utilise habituellement en psychiatrie ou dans l'anxiété. Peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise des médicaments de ces catégories-là?
C'est un peu, dans le fond, le stress post-traumatique, c'est comme si notre boucle noradrénergique de notre cerveau reptilien, le pas le cortex, là, mais ce qui est plus enfoui dans notre cerveau, notre boucle noradrénergique continuait de lancer des influx noradrénergiques constants pour qu'on soit en hypervigilance, puis pour, au fond, faire en sorte qu'on se retrouve pas dans une autre situation traumatisante. Hein. Fait que c'est un peu ça que notre cerveau fait, mais notre cerveau continue à envoyer des signaux de détresse et d'alarme alors qu'on n'est plus dans le trauma. Donc, c'est ça qui est pathologique. Fait que ces molécules-là vont jouer sur, par exemple, les récepteurs alpha. Le prazosin, c'est alpha 1 adrénergique. Ça va au SNC, puis ça fait en sorte d'aider les troubles du sommeil, d'aider le traitement cognitif du stress par le cortex préfrontal. Ça vient comme bloquer un peu cette hyperfonction noradrénergique-là.
Puis est-ce que les gens vont prendre ça à vie ou c'est durant un épisode en particulier puis qu'ils peuvent soigner?
Le stress post-traumatique, si on a un traumatisme d'un certain niveau puis on a vraiment des bons symptômes, ça prend une psychothérapie pour adresser ça. Donc, les médicaments vont, mettons, le prazosin va faire en sorte qu'on va continuer à avoir des rêves, mais pas nécessairement tous des cauchemars reliés au trauma parce que ça fait un certain cercle vicieux. Le patient est fatigué, il est stressé toute la journée, il finit par s'endormir, il fait des cauchemars qui lui refont penser au trauma. C'est ultra stressant, t'as plus envie de dormir, mais t'es fatigué, donc ça rend tout l'état de la personne encore pire. Donc, ce qu'on va faire en psychothérapie, c'est qu'on va désensibiliser la personne à ça, où on va, tu sais, dans un lien thérapeutique, on va revivre des moments du trauma, puis essayer de faire en sorte que le cortex préfrontal, ou tu sais, que notre cortex, que notre cerveau plus intellectuel défasse des choses par rapport à ça et traite l'information et réalise qu'au fond, qu'on n'est plus dans le trauma, là, qu'on n'est plus dans une situation stressante.
Tu parles de situation stressante. Là, on dirait que notre réflexe dans ce temps-là, c'est de donner des benzodiazépines là, quand on est dans une phase aiguë. Puis là, tu m'as dit tout à l'heure que ça ne marchait pas, en fait, que ça empirait les choses. As-tu bien compris?
La plupart des données sont négatives. Les risques sont plus grands que les bénéfices. Tu sais, c'est vraiment du très, très court terme. Et mettons, le stress post-traumatique, on a découvert que, mettons, tu es avec ton conjoint, ta conjointe, tu conduis, tu fais un accident, ton conjoint et ta conjointe décèdent sous tes yeux. Si je te donne une benzo pour t'aider à passer à travers les prochaines semaines, je ne vais pas diminuer ton risque de stress post-traumatique, je vais même potentiellement l'augmenter. T'sais, c'est parce que ça change ton architecture de sommeil, ça change la façon dont ton cerveau va traiter l'information. Ce n'est pas utile. Puis l'extrême majorité des patients vont devenir dépendants de ça. Puis l'effet des benzos sur l'architecture du sommeil, dans le fond, ça va pas faire en sorte qu'on va moins avoir de cauchemars, moins rêver ou mieux dormir. Ça va être plutôt le contraire. Donc, c'est vraiment pas souhaitable.
Donc, quand on anticipe qu'un patient pourrait développer un choc post-traumatique des suites d'un événement là, important qu'il a subi, on devrait choisir d'autres choses pour traiter la phase aiguë là, où est-ce qu'il nous consulte parce qu'il se sent très... Monsieur, qu'est-ce que tu proposes?
Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose qui est démontré en phase aiguë après ça qui est efficace. Puis toutes les mesures qu'on pensait qui étaient bonnes, là, comme de faire des débriefings puis d'aller s'asseoir avec un psychologue puis d'en parler plusieurs fois, c'est pas nécessairement bon. Mais après quelques semaines, je pense que quand la personne veut en parler puis digérer un peu ça, là, oui, ça peut être adéquat. Là. Puis là, oui, si la personne a un niveau de symptômes de stress post-traumatique, ça peut être adéquat de donner un médicament. Mais honnêtement, tu sais, je sais qu'on est des pharmaciens, là. Il faut comme résister à l'envie de donner quelque chose pour aider la personne à passer à travers ça, ça ne va pas l'aider, même ça va okay. lui nuire. T'sais.
Donc, par exemple, le zopiclone, le trazodone, ces choses-là, ce n'est pas nécessairement les meilleures alternatives. Là.
Non plus, non. Il y a des molécules que je ne peux pas dire qu'il y a d'études en aigu qui dit que ça nuit. Là. Fait que si on veut vraiment donner quelque chose, mais honnêtement, je pense pas que ça va tant aider. C'est un peu comme normal de pas bien dormir, puis c'est un peu normal de, tu sais, c'est plate à dire, là, mais c'est comme une réaction normale. Tout comme quand quelqu'un vit un deuil, c'est pas toujours une pathologie. Tu sais, je comprends que des fois, on veut dire peut-être que la personne est en train de faire une dépression, mais c'est comme une réaction un peu normale. Donc, on peut pas tout enlever les émotions négatives reliées à des choses, des gros événements majeurs. Il faut comme attendre un peu, puis voir après ça qu'est-ce qui se développe, puis qu'est-ce qui reste. Ce qui veut dire, par contre, là, que quelqu'un qui a déjà fait un stress post-traumatique, qui a déjà fait une dépression majeure, on n'attendra peut-être pas de le voir pas bien aller pendant un mois dans son coin sans rien faire non plus. Là, t'sais, on peut commencer un traitement d'entretien un peu plus tôt que ça. Mais je veux dire... il n'y a comme rien à faire au jour 1 qui est prouvé, genre très, très efficace et tout ça qui va permettre à la personne de sauver un peu de la réaction normale à l'événement traumatisant ou stressant. Là.
OK, c'est plus clair. J'ai l'impression de changer un peu de sujet, mais j'aimerais absolument aborder le trouble obsessif compulsif. Ouais. Parce que pour moi, c'est comme une entité un peu à part des autres. Là. Je ne sais pas si tu peux m'aider à me démêler. Là. C'est quoi la différence entre une obsession et une compulsion? Tu en as parlé un petit peu au début, là, mais juste pour que ce soit bien clair.
Bon, ben l'obsession, ça va être des pensées. En fait, l'extrême majorité, c'est des pensées, mais des fois, ça peut être des impulsions ou des images que la personne va avoir. Donc, généralement, c'est désagréable. Là. Donc, ça peut être des images de choses dégoûtantes ou tout ça qui nous reviennent comme un peu en tête, là, des espèces de dépressions, ou ça peut être des pensées tout à fait rationnelles, du genre j'ai peur que je mette le feu à la maison ou j'ai peur d'attraper tel virus. Là. Puis la personne va essayer de ne pas tenir compte de cette obsession-là par des compulsions, qui sont des comportements répétitifs, des espèces de rituels ou des actes mentaux répétés, genre compter 8 fois ou pas marcher sur les cracks de trottoir ou tout ça, ou t'sais, prier, compter ou passer absolument à la droite des personnes qu'on croise pour essayer de diminuer ces obsessions-là. Les personnes, la plupart du temps dans le TOC, sont conscientes du caractère un peu futile de ça. T'sais, la personne sait que, quand bien même qu'elle vérifierait 8 fois que le four est fermé ou que la porte est barrée, t'sais, vérifier une ou deux fois, ça aurait été assez, mais elle a comme besoin de le faire un certain nombre de fois parce que elle considère que ça ne le fait pas ce nombre de fois-là, son anxiété monte trop et son obsession prend trop de place.
C'est particulier, hein? Puis dans les soins, moi, j'avais appris qu'il fallait utiliser des doses élevées, pour des doses d'antidépresseurs élevées. Mais ça fait un peu peur d'utiliser des doses élevées. C'est quoi les doses élevées pour toi? Est-ce que c'est comme les doses maximales qu'on voit dans le compendium ou plus encore?
Ouais, c'est ça. Je dirais que si on regarde certaines lignes directrices qui ont regardé les données, c'est plus aussi clair qu'il faut absolument pour avoir la dose max. Par contre, c'est un trouble qui est plus souvent résistant. Il y a beaucoup de patients qui voient une différence dans le dernier 10-20% d'augmentation de dose. Fait que je pense que ça vaut la peine pour plusieurs troubles anxieux, mais surtout pour ce trouble-là, de faire de pas juste viser la dose minimale efficace, mais quand on titre la molécule, de viser la dose maximale tolérée. De toute façon, l'efficacité va être longue avant d'arriver. Si elle arrive, t'sais, on ne fait pas viser une dose antidépresseur comme en dépression. On vise t'sais, à peu près la dose max tolérée ou la dose max selon la fonction rénale, les interactions que le patient présente. Puis oui, moi, je suis assez vieille pour avoir connu du citalopram 80 mg. Là, si on regarde les premières études, c'était donné même en dépression, tout ça, puis les patients ne sont pas morts. Là. Je veux dire, je comprends qu'il y a le QT aussi. Je ne dis pas d'utiliser des doses au-delà de la monographie pour ça. Il y a une implication médico-légale à le faire, mais je pense que c'est correct d'aller à la dose maximale de la monographie pour le patient moyen qui le tolère. Puis après ça, de regarder si ça fonctionne, puis si ça fonctionne, puis s'il y a des effets secondaires, bien là, après ça, on peut essayer de diminuer un tout petit peu la dose. Mais le problème, si on fait juste viser une dose minimale ou une dose moyenne, c'est que ça va nous prendre six mois à essayer une molécule, puis tu sais, on n'aura même pas essayé la molécule jusqu'au bout. C'est pour ça que, oui, on vise la dose maximale tolérée, puis ce qui peut souvent être la dose maximale monographie. Dans quelques rares cas, des fois, on pourrait dépasser la dose maximale, mais c'est sûr que je le recommande pas, là. Mais ça peut arriver qu'il y ait des patients qui essaient ça, puis si on a essayé de diminuer, il faut vraiment documenter au dossier qu'après ça, on a essayé de diminuer un petit peu la dose, puis que là, le patient a rechuté ou allait vraiment pas bien, là. Je pense que chez certains patients, ça peut être correct, mais il faut vraiment très, très bien le documenter, puis être sûr qu'ils le tolèrent, puis que ça les met pas à risque de d'autres problèmes, là.
Bien, ça m'amène un peu, j'aimerais ça revenir sur les troubles anxieux en général. Là. Bien, justement, ouais. Celui-là, le trouble obsessif-compulsif, ça m'apparaît comme un trouble peut-être plus grave, mais quand même, mais est-ce qu'il y a des situations en troubles anxieux où est-ce qu'on devrait référer à l'urgence, là, ou si on peut toujours gérer ça dans la communauté, là, avec des suivis, avec un médecin de famille, par exemple?
C'est rarement l'hospitalisation qui va être bénéfique. Il faut qu'il y ait vraiment un très, très gros problème de fonctionnement pour que le trouble anxieux ait besoin d'être hospitalisé. Parce que, un peu, d'une certaine façon, les patients vont d'eux-mêmes se retirer de tout ce qui déclenche leur anxiété puis s'isoler chez eux, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable pour la plupart des patients. Mais c'est sûr que si ça nuit au fonctionnement au point où la personne sort plus jamais de chez elle, ne mange plus, dépérit. Là, oui, ça peut être adéquat de la référer, mais comme il n'y a pas de traitement miracle non plus, c'est rarement une hospitalisation pour un trouble anxieux qui va être salutaire, mais ça peut l'être là, si la personne a vraiment, vraiment des gros problèmes. Mais je pense que ce qui est mieux, c'est plus d'appeler le 811, info sociale, de voir que la personne rencontre une travailleuse sociale ou un psychologue ou un médecin qui fait des ajustements à sa pharmacothérapie, qui identifie c'est quoi le problème. Déjà, ça va rassurer le patient puis son entourage, puis il y a plus de chances que ça s'améliore. Je pense que, surtout ces temps-ci, personne n'a tant envie d'être à l'hôpital, là, surtout pour un trouble anxieux, là.
Est-ce qu'il faut, mais si on compare à d'autres maladies psychiatriques, là, est-ce qu'il faut penser au risque de suicide? Est-ce que c'est plus prévalent?
Oui, c'est possible. Là. Oui, c'est le genre de choses à dépister. Puis oui, c'est le genre de choses à savoir. Est-ce que la personne est quand même capable de s'occuper d'elle-même puis des personnes à sa charge? Là, dans ce sens-là, oui. Mais c'est rare que ça nécessite nécessairement une hospitalisation. Mais oui, les gens peuvent être découragés de ça puis faire des tentatives de suicide. C'est le stress post-traumatique. La plupart des gens vont comme développer une toxicomanie, tu sais, d'alcool ou de benzo ou de toutes sortes d'affaires qu'ils vont essayer de prendre pour se geler puis éviter de penser à leur trauma puis être capable de dormir un peu, là. Fait que je pense qu'il y a toutes ces choses-là à côté qu'il faut s'assurer qu'ils sont d'une certaine façon sécuritaires, là.
OK. Écoute, c'était un survol, on s'entend. Hein? Si on a encore des questions, là, puis qu'on veut se renseigner ou savoir qu'est-ce qui est les textes les plus importants, est-ce que tu pourrais me parler des références que tu utilises?
Il y a les lignes directrices canadiennes. C'est sûr qu'ils datent déjà de 2014, là, mais en fait, il n'y a pas tant d'autres lignes directrices qui sont vraiment meilleures, ben, ou en fait, pas pour tous les troubles anxieux ensemble. Pour bien décrire c'est quoi chaque trouble, les premières, deuxième ligne, troisième ligne, les principes de traitement, etc., je pense que les lignes directrices canadiennes font encore un très bon tour.
Donc, est-ce que tu as un message clé, quelque chose à ajouter? Là, on a fait un survol et peut-être des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais discuter pour le bénéfice de nos auditeurs?
Oui, bien, je veux juste que les gens se souviennent qu'en troubles anxieux, la dose minimale efficace, ça peut marcher, là, mais souvent, ça prend plus la dose maximale tolérée. Je pense que ça vaut la peine de continuer de titrer tant que le patient le tolère. Ça ne veut pas dire de titrer vite, hein, surtout en trouble panique. On peut exacerber le patient au début si on titre trop vite notre ISRS, mais je pense que ça vaut la peine de continuer de titrer lentement puis de viser une dose tolérée, surtout que les effets secondaires, par exemple, des ISRS, ne sont pas tant dose dépendants. Fait que je pense que ça vaut la peine de rassurer le patient puis d'avoir des attentes réalistes aussi sur quand est-ce que ça va faire effet. La psychothérapie devrait être offerte à tout le monde puis encouragée. Puis après ça, ben je pense que pour les pharmaciens aussi, l'autre chose à savoir, c'est par rapport au sevrage des molécules. Tu sais, on a comme des recettes un peu préétablies pour tout le monde, mais ça se peut, surtout chez les patients anxieux, que ça prenne des mois à sevrer les molécules. Puis c'est pas problématique, là. Je pense qu'il faut donner le bénéfice du doute aux patients puis le croire, là, même si on considère que 5 mg de citalopram, ça ne devrait pas faire une différence chez le patient, mais ça se peut très bien que notre patient devant nous, oui, ça fasse une différence, puis qu'il faut sevrer encore plus tranquillement, puis peut-être même faire des formes pharmaceutiques spéciales pour les entre-deux doses. Là.
Bon, bien, je te remercie, Violaine, d'avoir accepté notre invitation. Je suis content qu'on ait fait un survol là, des troubles anxieux.
Bien, merci de l'invitation. Je pense que ça concerne quand même vraiment beaucoup de gens, puis ça vaut la peine, comme pharmacien, de prendre le temps de s'asseoir avec le patient, d'avoir des attentes réalistes, puis des craintes réalistes aussi par rapport aux effets secondaires qui n'arrivent pas chez tout le monde, mais qui vont plus arriver chez nos anxieux qui ont peur que ça arrive. Fait que de déconstruire tous ces mythes-là et d'y aller tranquillement, c'est très possible d'avoir un bon contrôle de son anxiété.
Voici qui conclut cet épisode de Très Pharmacien. Au prochain épisode, votre animatrice habituelle sera de retour pour discuter des urgences hypertensives avec Marie-Ève Tourigny-Poirier du CHU de Québec, Université Laval. Alors, soyez des nôtres.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Ma belle amour, ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça. Après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis.
Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec.
This year, Democracy Now! Turns 25 years old. That's right, 25 years of bringing you the voices and stories you won't hear in the corporate media. Democracy Now! Has always refused to take government or corporate funding because nothing is more important to us than our editorial independence. Nothing is more important to us than telling you the truth. But that means we rely on you, our audience, for support. Please visit democracynow.org right now and make your $25 contribution in honor of our 25th anniversary and help us stay on air for